On faisait de la musique dans notre studio en 99 et il y a eu une explosion avec le bug et depuis on est devenus des robots.
Vous aviez besoin de ça ?
Les accidents, on les prédit jamais.
C'est quoi la French Touch ?
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
Bangalter Thomas, 32 ans, moitié de Daft Punk.
Dolan Christo Guy-Manuel, 33 ans, moitié de Daft Punk.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk. Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont faite.
À l'époque, quand t'entendais de la techno dans une bagnole à Paris, t'allais voir qui c'était parce que tu le connaissais forcément. Les gens disaient c'est la musique du diable, c'est pas de la musique parce qu'il y a le pied qui fait boum boum boum.
C'est quoi la French Touch ? Ça ne voulait pas dire grand chose.
C'est oh, sacré bleu, Dimitri, oui, baguette.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. Hein. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne. Quoi.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 1, Daft Punk, les origines.
Alors moi je m'appelle Emmanuel Roussel, à l'époque j'étais surveillant au lycée Carnot et c'est comme ça moi que j'ai rencontré Thomas. Je vois arriver un petit gars, blond, tu vois, il devait avoir 15 ans, il est en première S. Et là je vois un gars que je trouve jeune mais super fin, très sympa, super bien élevé. On commence à échanger autour de ça, autour de la musique. Et puis là, très vite, il me raconte que, et ça me fait mourir de rire, que son père a été producteur d'Otawan. Donc on commence à parler d'Otawan, à rigoler sur ses groupes de disco française, enfin, etc. Et il dit non, mais mon père était dans la musique. Il y a Céron qui vient bouffer à la maison. Moi, j'adorais Céron, quoi. J'étais comme un fou. Je lui dis putain, mais c'est génial. Mais je me souviens d'une fois, alors je ne sais plus si c'était, il était encore au lycée ou si c'était après, où il me dit qu'ils vont enregistrer voilà, au Royaume-Uni. Génial, et tu penses que ça va marcher ? Il me dit, ça peut. Et là, il me dit, donc, mais de toute façon, on ne verra pas nos têtes. Et je me souviens de cette phrase, tu vois, c'est la phrase qui m'a marqué de lui. Et tu vois, c'est un souvenir que j'ai gardé précis de lui, ça, il l'avait en tête, et jeune. C'est-à-dire que quand il me dit ça, il n'a pas 18 ans, à mon avis.
Donc, je commence à travailler dans des magasins de disques.
Daniel Dosser, manager de Darlin, premier groupe des Daft Punk.
Je déambule dans la boutique Neurose pour prendre des disques à envoyer. Et j'ai deux petits gars qui arrivent. Un petit peu plus grand que l'autre, mais très très maigre les deux. Un qui a, c'est un peu, je dirais, David Gilmour à 20 kilos. C'est des anges, quoi, qui viennent me voir en disant voilà. Puis en fait, on a une petite cassette. Et bon, je rentre chez moi, j'écoute la cassette. C'est rigolo, en plus, Darling, sur la cassette, c'est le morceau, c'est une reprise des Beach Boys. Moi, je suis fan, donc ça tombe bien. Et Tim de Stereolab me dit, moi, ça m'intéresse et je trouve ça super bien. Et en fait, j'ai comme projet sur notre label de sortir un 45 tours avec ton groupe, Darling, Huggy Bear et nous, un double 45 tours. Je revois nos deux camarades en disant, voilà, et moi, en même temps, je leur dis, j'aimerais bien vous manager. On va dire au mois de mars 92, avril 92.
Par contre, ce qui serait intéressant aujourd'hui avec le recul,
Pedro Winter,
c'est de réécouter Darling,
ancien manager des Daft Punk.
Et bon, Cindy So Loud, c'est assez particulier quand même. Cindy So Loud, morceau sur lequel chante Guy-Manuel.
Alors moi, je continue avec eux jusqu'à, on va dire, fin 93, début 94. Alors on se voit énormément, pas tous les jours, mais pas loin. En fait, le temps passe vite, alors qu'on est au mois de mars, mais au mois de mai, j'ai des amis qui me disent, bah, nous, on organise la fête de la musique à Orsay. Et moi, je leur dis, bah, prenez Darling. Et voilà, donc on organise ce concert-là, ça va être leur premier concert, en fait, où ils sont quatre. Il y a Laurent à la guitare, Brankovitch, il y a Thomas à la basse, et il y a Guiman à la guitare. Guiman a les cheveux longs, il s'est mis des petites paillettes sur le visage, il ne pose pas, mais il se met de profil, c'est-à-dire qu'on ne verra quasiment que de profil pendant le concert. Thomas, un joli t-shirt à l'effigie de Bobby Gillespie, de Primal Scream. Et voilà, le premier morceau étant une reprise de Kiss. Voilà, ils commencent l'instrumental. Et donc, ils vont jouer leurs deux morceaux de la cassette. Et ça se termine comme ça. Et voilà. Il n'y a pas d'électronique. Après, ils ne cherchent pas à être indés non plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils ne disent pas, nous, on est indés. C'est juste, on démarre. Donc voilà. Et pour preuve, c'est-à-dire que quand on parle de musique ensemble, et on parle souvent de musique, on ne cite absolument pas de groupe indé. D'ailleurs, le plus indé possible, ça va être Primal Scream, avec Screamadelica, qui est sorti 6 mois avant, à peu près. We're gonna have a party. Moi, j'ai le souvenir de Guiman me parlant d'Augustus Pablo, d'un bootleg qu'il a commandé aux Pays-Bas de Smile, des Beach Boys. Voilà. Donc, on parle pas du tout d'indé, en fait.
Bah, j'ai des rencontres pendant un concert de Primal Scream à l'Élysée Montmartre.
Serge Nicolas, graphiste du premier album des Daft Punk.
Fin 91 ou début 92, c'était pour la tournée de Screamadelica, donc album produit par Andy Weatherall, etc., qui était aussi un album vraiment charnière pour beaucoup de gens, qui entre la pop-rock et la scène électronique, donc c'était vraiment ça, quoi, la transition. Donc c'est à ce moment-là que je les rencontre par l'intermédiaire d'un ami commun, qui s'appelle Daniel Dosser. J'ai découvert au fil des rencontres, notamment avec Thomas et Emmanuel, qui venaient aussi du rock à l'époque.
Disons qu'à ce moment-là, on écoutait pas mal de rock.
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk, 1996.
Pas mal de musique de rock un peu indépendante, des trucs un peu violent, mais à la fois, il y avait moins en moins de surprises. Disons que ça commençait, à mon avis. C'est la scène rock avec les concerts, ça commençait un peu à s'essouffler. Avec les gens qui dansaient de moins en moins. En même temps, il y avait on avait, je sais pas, 18 ans, et il y avait la possibilité de commencer à sortir dans les premiers rêves qu'il y avait.
C'est-à-dire qu'en fait, l'anecdote à l'époque, c'est que...
Daniel Dosser, 2004.
Avec Guiman, on adorait ce qu'on appelait les One Again, qui étaient des filles à la Kate Moss, on était fans. Et lui, il disait, ah voilà, mon rêve. Et pour rire, ça fait partie de cette prétention et de cet humour qu'ils avaient, c'est que Guiman disait, moi, un jour, je veux qu'il y ait Kate Moss qui soit backstage. Et donc, la légende veut qu'il soit allé à une rave à Bobo en disant, mais mon Dieu, les filles, elles sont super belles, c'est ce genre de musique qu'il faut faire.
On a découvert la musique électronique, les clubs, les rêves au début des années 90, quoi. Et puis avec la rêve des transmusicales. Donc il y a eu un switch qui s'est fait à ce moment-là de la scène rock indé vers la scène indé électronique. Voilà. Et on a découvert la scène techno de Détroit, la scène house de Chicago, etc., etc.
Et
donc je crois que c'est Guy Manuel qui finit par me demander un peu ce que je fais là.
Nicolas Plomé.
À la rentrée 92, où il est question d'aller aux Transmusicales de Rennes.
Journaliste à Magic, premier intervieweur des Daft Punk.
Parce que les Transmusicales, c'est un festival qui est déjà quand même une dizaine d'années d'existence, et ça on connaît, mais c'est un des premiers festivals à proposer une rave, avec des lives électroniques, plutôt anglais d'ailleurs à l'époque, et des DJ américains. Donc en gros, les têtes d'affiche de la rave des Trans 92, les anglais c'est 808 State, The Orb et Underground Resistance. Quand je les ai revus, je leur ai demandé alors ça s'est passé comment. Ils m'ont dit c'était super. Par contre, ils étaient rentrés de la rêve à 5h du mat. Ils se sont retrouvés à la gare de Rennes et là, il n'y avait pas de train. Il fallait attendre un peu. Donc, ils ont attendu et ils ont chopé la crève.
Ah bon, d'accord. Moi, j'y suis aussi. Mais tu vois, je ne les connais pas. Ah, je suis étonné. Je ne savais même pas.
David Blow, co-organisateur des soirées Respect.
Ça, je suis vachement étonné parce qu'ils sont jeunes. Hein.
Ils sont très jeunes.
Ils sont très jeunes hein, parce qu'ils ont 3-4 ans moins que moi. Et moi, j'y suis à cette rêve. Donc, alors on est bien des jeunes, hein, on va en voiture depuis, je sais pas comment les Daft ont fait, ils devaient vraiment pas avoir le permis, quoi. Ils l'ont pris en train peut-être, je sais pas. Nous, c'est vraiment la voiture, puis il faut pas être trop défoncé ou alcoolisé pour repartir au petit matin, quoi. Mais effectivement, les Transmus, c'est important. On sent vraiment la rêve, tel que je l'ai vu un peu à Paris, tu le revois dans un contexte un tout petit peu plus institutionnalisé. Mais bon, ça reste très, 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 très éphémère, enfin, je veux dire. Et puis, c'est pas grand public du tout.
Il y a eu un avant et un après trans, je pense, pour pas mal de gens, de la scène rock en tout cas.
Serge Nicolas, voilà. Graphiste du premier album des Daft Punk.
Qui ont découvert un peu ce truc qui était différent avec l'attitude, les gens un peu qu'on reconnaissait pas forcément physiquement parce qu'ils étaient masqués, etc. La musique avant l'individu, quoi. Puis l'attitude, le discours, c'est vrai qu'on a pas mal ont été un peu choqués parce que c'était ils sont arrivés de façon assez agressive. Ils ont dit des alors je sais plus ce qu'ils ont dit exactement, mais enfin bon, c'était assez rampant, un peu à la façon d'un Public Enemy mais version techno quoi. Et c'est vraiment ce que les gens ont perçu à ce moment-là et donc ça a été un choc pour pas mal. Puis après, musicalement, évidemment, c'était tellement énorme que, bon, voilà.
Le passage de Darling à Daft Punk n'est pas du tout... Il n'y a pas de communiqué de presse, il n'y a rien. Ça se fait de façon assez naturelle.
Nicolas Plomé.
Alors là, on était en 92, on va passer quand même en 93, mais il y a une soirée au Centre Pompidou. Soirée faite par des anglo-saxons qui vivent à Paris. Et donc, les mecs ont, je ne sais pas comment, réussi à obtenir l'accord du Centre Pompidou pour qu'il y ait une soirée au dernier étage, là où maintenant il y a Chez Georges, le café assez cher, chic. Et la soirée, dans mon souvenir, elle est très courue parce que, par exemple, il y a Andy Weatherall, le fameux DJ qui a produit Screamadelica de Primal Scream et qui est une des références des Daft, qui va jouer. Donc, je me rappelle très bien qu'il y a à peu près la moitié des gens qui font de la musique électronique à Paris qui sont présents. On monte le fameux escalator. Et donc, je croise Guyman et Thomas. Je crois que c'est ce moment-là où ils me disent que maintenant, ils vont se consacrer. Mais il n'y a même pas de nom, parce que le fameux nom, ils l'ont trouvé dans la chronique assez méchante et qui parle de Daft Punk. Et ce n'est pas un compliment, quoi.
Les deux morceaux pourris du groupe Darling, faits par deux punks abrutis, s'appellent Cindy So Loud. C'est le nom du morceau et la seule parole du titre, et une version instrumentale étrange à la guitare du morceau des Beach Boys, Darling.
Il y a la chronique dans Melody Maker.
Daniel Dossert.
Daft Punk se fait détruire. Et donc Darling, c'est la musique de Daft Punk. C'est la musique de punk abruti. Voilà. D'où le nom Daft Punk. Ils sont un peu déprimés quand même. Oui. En fait, je pense qu'ils sont déjà frustrés. Ils sont pas à l'aise dans le monde dans lequel ils sont. Moi, je suis embêté pour eux, même si je leur dis c'est pas grave. C'est pour ça qu'à l'époque, je les traîne un peu avec moi, en tout cas que je les emmène avec moi. Les gens ne comprennent pas. Ils considèrent parce qu'ils ont une volonté au-dessus de la moyenne, donc on les prend pour des gens un peu prétentieux. Mais alors, ce qui n'est pas le cas, c'est que simplement, eux, ils ont envie d'agrandir le spectre et pas de s'arrêter juste. Enfin, on fait de la musique indé, on fait du rock, machin. Non, ça ne les intéresse pas, ça. Eux, ils sont sûrs de vouloir faire des choses top. Moi, je ne pense pas qu'ils pensent à ce qu'ils vont faire plus tard musicalement. Sinon, ils l'auraient sûrement déjà fait. Mais en tout cas, ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose, ça c'est certain.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 1, Daft Punk, les origines.
Dans leur chambre, ils m'ont montré là où ils faisaient le disque.
Nicolas Plomet.
Moi, j'étais épaté parce que je savais que c'était pas dans un studio tel qu'on imagine un studio d'enregistrement à l'époque, que c'était, oui, du fait maison. Mais il faut imaginer le truc, bon, ça va, hein, la maison est assez grande, mais là où ils le font, il y a des câbles qui traînent, enfin, toi, c'est limite des emballages de pizza, enfin, c'est quand même des jeunes gens, quoi. Ils sont pas... Il y a personne qui vient faire le ménage. Donc... Non, mais c'était pas horrible, c'était pas grave. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est moi, quand j'y vais, on fait l'interview, et puis après, ils me disent, bah, si tu veux, tu restes, on va commander des pizzas, et tu vas nous voir en train d'enregistrer, quoi. Pour eux, ça se fait dans la continuité. Il n'y a pas de moment où ils se disent, bon, bah, là, maintenant, on est en studio. C'est quelque chose qu'ils vont faire au long cours. Et c'est ça, je pense, qui nous a le plus impressionnés, c'est que les mecs ont délivré un truc à leur rythme, mais tout était là, quoi.
Le soir, j'ai appelé Thomas et Guy-Manuel et j'aurais dit oui, est-ce que vous voulez venir à la maison? J'ai une surprise pour vous et prenez votre démo.
Serge Nicolas, graphiste du premier album des Daft Punk.
Et donc, ils étaient un peu intrigués, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et donc, ils sont arrivés avec leur démo à la maison, ne sachant pas qu'il y avait les gars de Soma à la maison.
Et Serge, il est passé de la pop indé à la house très rapidement, mais à fond, quoi. Il organise des soirées, il connaît peut-être pas tous les DJ, mais il en connaît un bon paquet. Et c'est lui qui va faire la connexion entre Daft Punk, le son, et puis un label qui va être intéressé, bah, c'est les Écossais de Soma, et qui vont permettre donc, de sortir ces fameux maxi-vinyles qui vont bien buzzer, comme on dirait maintenant.
Suite à ça, ils ont fait écouter la démo le soir même et les gars ont dit ben ouais, on voudrait en écouter plus quoi. Et donc ils ont pris contact et à partir de là, ils ont échangé, ils ont retravaillé les démos jusqu'à obtenir le résultat final qui est sorti après sur Soma en 94.
Je partageais un studio photo et ils sont venus au studio.
Philippe Lévy.
Ce sont ces photos-là. Effectivement, on voit deux jeunes hommes.
Premier photographe officiel des Daft Punk.
Visage totalement découvert, souriant. Ils sont très à l'aise. Après, Guy-Manuel est toujours un peu renfrogné et Thomas joue le jeu à fond. Mmh. Voilà, moi je joue sur une série d'images en duo, un assis, Thomas sur un tabouret, le genou relevé, et Guy-Manuel debout, contre, avec un éclairage rouge assez, assez fort, un petit peu qui peut rappeler un peu la vie nocturne, la musique nocturne. Et aussi cette image qui est une surimpression faite en direct. Voilà, donc j'ai dû faire trois rouleaux, hein, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Hein. C'est l'avantage de l'argentique à l'époque. Bien les albums. Chicago Daft Punk, et puis j'en ai retiré, que j'avais tiré à l'époque, puisqu'à l'époque, j'avais fait une série de tirages en plusieurs exemplaires. Hasard total, j'étais à New York, chez un ami chez qui j'allais souvent. Et à ce moment-là, Serge Nicolas est lui-même à New York. On se croise et il me parle qu'il rejoint les Daft Punk à Chicago pour ensuite aller à une rave party dans le Wisconsin.
On est allé ensemble à ce voyage parce qu'on en a profité pour faire un petit passage par New York, Chicago.
Serge Nicolas.
On est allé dans des clubs, on est allé chez les disquaires, etc. Tous les DJ de Chicago passaient à Gramophone et en fait, et ils laissaient tu pouvais acheter des mixtapes. Et donc, tu avais plein de mixtapes de tous les DJ qu'on aimait. On était dingue, on arrive là. Et puis en fait, moi, j'ai acheté plein de cassettes, même des gars de Dance Mania, de DJ Dion, Paul Johnson qui vient de Dance Mania en fait. Hein. Il y avait des vieilles mixtape de lui, enfin des trucs incroyables quoi. On avait prévu des sacs vides pour ramener des disques. Et donc c'est ce qui a le plus influencé Thomas Guiman, c'est vraiment la house de Chicago, les ghetto tracks du label Dance Mania, ce genre de choses quoi. Ce côté assez brut dans le son, le côté tout analogique, pas d'ordinateur MIDI, etc. Mais c'est avec des boîtes à rythme, des séquenceurs, des synthés analogiques. Donc ce côté un peu brutal aussi du son, un peu granuleux, qu'ils ont gardé, puisqu'au début, tous les premiers morceaux qu'ils ont créés, c'était vraiment du pur analogue. Ils enregistraient sur des Revox. C'était vraiment ce côté un peu brut comme ça. Et après, on est allé dans cette rêve dans le Wisconsin. En pleine campagne, au milieu de nulle part. Quoi.
Je décide d'y aller. Enfin, voilà, je prends mon billet pour Chicago et on se retrouve là-bas. 7 heures de route, oui. Ils ont un grand van. Les gamins et moi.
Philippe Lévy.
Je suis entouré d'une bande de vingtenaires. Voilà, ça c'est l'arrêt au McDo. Bah, parce que évidemment, où est-ce que s'arrêtent des jeunes pour manger? Je crois pas que le bio existait à l'époque aux États-Unis. Donc on s'arrête, moi j'ai une série. Voilà, tu vois là, c'était un. Ouais, voiture avec Thomas. Immatriculé 899 LKP. Un GMC. C'est quoi, General Motors? Ouais, donc c'est une belle bête. C'est l'arrêt sur l'autoroute. Il doit y avoir la petite partie de frisbee aussi. En boots, hein, tu vois, vraiment en look darling, quoi. Ce pantalon slim, boots pointus, look rock. Ils ont gardé ça jusqu'à un moment, du moins pour leur visuel. C'était pour moi un groupe toujours en teddy, en chemise à carreaux sur le premier shooting. Donc on était complètement là-dedans. Une bande de jeunes blancs. Rien à voir avec la musique black de Chicago citadine. On est dans la rave. On est en mai 96. Ils vont jouer très très tard, sous une tente. Le temps était dégueulasse pendant 2 jours. Il faisait froid. Enfin, c'était pas confortable. Ils ont fait un live, ils ont branché les machines sur un tréteau, enfin rien de. Et ils ont joué en position centrale, sur ce chapiteau.
Là, pour le coup, c'est vraiment une rêve mythique américaine.
Pedro Winter.
Et effectivement, ceux qui ont volé la vedette, c'est les deux petits Frenchies en starter. Et ce qui est génial, c'est que Philippe Lévy était là à ce moment-là et il a capturé cette photo qui se retrouve dans l'album Homer. C'est une belle photo noir et blanc. On voit le visage de Thomas. Guiman est caché derrière ses cheveux comme à son habitude. Et c'est une des rares photos, justement, officielles de Daft Punk.
En fait, de la rêve, c'est le groupe un peu attendu. C'est, en fait, c'est là où c'est quand j'ai vu l'engouement dans le chapiteau où cette jeunesse était à fond et on semblait connaître les morceaux.
Ah,
Alors, ce qu'ils m'ont dit sur place, c'est en rentrant, on ne diffuse pas les photos, ils ne veulent pas être vus. En fait, ils m'achètent mes tirages. Peu de gens les ont vus, puisque pour les voir, il fallait les venir me voir.
Le premier morceau qu'ils me font écouter à ce moment-là, c'est le morceau The New Wave, qui est le morceau le plus techno, le plus froid.
Serge Nicolas.
Du single et tout. Alors, moi, j'étais un peu mitigé, j'avoue, sur ce morceau-là. Après, j'aurais dit, ouais, enfin, je sentais qu'il y avait un truc, un potentiel et tout. Et puis, finalement, ils l'ont retravaillé. Donc, c'était pas la version qu'on a connue après. Et après, effectivement, ils m'ont fait écouter l'autre morceau qui était Alive, qui était vraiment très, très singulier, plus original, on va dire, plus lent, etc., qui sortait un peu des cases. Et c'est ce morceau-là qui a séduit les gens de Soma, quoi.
Je me prends Alive dans la tronche, comme tous les rêveurs parisiens de l'époque. Absolument aucune idée de qui est Daft Punk, que c'est un duo français. C'est juste un morceau exceptionnel qui retentit dans toutes les rêves, tous les week-ends, pendant quelques mois. Et d'ailleurs, c'est un an plus tard que j'apprends que c'est un morceau de Daft Punk.
Moi, à l'époque où je connaissais ni Guiman ni Thomas, je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu, j'étais dans un jardin.
Éric Chedeville, cofondateur du label Cri d'amour.
J'y avait un mec qui mixait un peu plus loin, j'ai entendu, c'était Alive. Je me suis levé direct, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est génial, et voilà.
Alive est une forme de passerelle, effectivement, entre la musique rock de Guiman et Thomas précédente, donc Darling, et ce qu'ils ont vraiment fait avec Daft Punk.
Romain Tranchard du groupe Mojo.
Dans Alive, on entend une transformation, finalement un pont entre deux mondes sur le plan de l'esthétique musicale. Alive, ça a ouvert une porte. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez sombre, ça faisait penser à The Cult, un peu à Danzig aussi, à quelque chose, Nine Inch Nails, la techno indus et tout ça, il y avait quelque chose d'assez sombre. Je me suis dit, ok, c'est assez extraordinaire ce que ça promet en fait.
Quand le single est sorti sur Soma, il y a eu un intérêt, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le morceau a été joué dans des soirées, les gens commençaient à réagir, et petit à petit, c'est monté, quoi. Et quand il y a eu la sortie de Daft Punk Rolling and Scratching, il y a eu le succès qui est sorti de la France au niveau international, dans le milieu techno, mais qui restait toujours underground, et puis après, la sortie sur Venice. Donc c'est monté progressivement, ça n'a pas été du jour au lendemain, quoi. Donc en fait, on a vu venir ce succès, donc j'ai pas été surpris, ça a semblé être dans la logique des choses.
À suivre, épisode 2, les majors s'arrachent les Daft Punk.
Le deal avec Virgin, d'un coup, tout le monde se dit, ah tiens, ok, ils ont vendu leur âme. Bah non, justement, ils ont prouvé qu'au contraire, pour aller un peu changer des choses, il fallait rentrer dans la matrice.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.